2. Eddie attrapa l'épicier au moment même où Roland s'occupait de l'autre homme. Mais Chip ne montra pas la même rapidité ou le même instinct de survie. Il se contenta de fixer le trou béant qui avait été sa porte et sa vitrine, les yeux écarquillés par le choc, tandis que le camion entamait le dernier mouvement de son balai d'autodestruction, la cabine se détachant du reste du corps et dévalant la colline en contrebas de la boutique en rebondissant jusque dans les bois. Le chargement lui-même se mit à glisser le long du bas-côté droit de la route, créant une énorme coulée de poussière et laissant derrière lui un profond sillon, une Chevrolet aplatie et deux autres écumeurs tout aussi aplatis. Il en restait visiblement un bon nombre, cependant. La fusillade ne cessait pas.
« Allez, Chip, il faut filer !»
l'exhorta Eddie. Cette fois-ci, lorsqu'il le tira par la manche, l'épicier le suivit à l'arrière de la boutique, sans oublier de regarder par-dessus son épaule, en s'essuyant distraitement le visage. Derrière, sur la gauche, une annexe servait de salle de restaurant, avec un comptoir, quelques tabourets aux sièges rapiécés, trois ou quatre tables et un vieux casier à homard suspendu au-dessus d'un porte-revue qui semblait contenir essentiellement de la presse féminine périmée. Alors qu'ils atteignaient l'arrière-salle, les coups de feu redoublèrent. Puis ils furent de nouveau éclipsés, cette fois par une explosion. Le réservoir du camion, pensa Eddie. Il perçut le sifflement d'une balle et vit apparaître un trou noir dans un tableau accroché au mur, représentant un phare.
« C'est qui ces types ?»
demanda Chip le plus simplement du monde.
« Et vous, qui êtes-vous ? Est-ce que je suis blessé ? Mon fils a fait le Vietnam, vous savez. Vous avez vu ce camion ?»
Eddie ne répondit à aucune de ces questions. Il se contenta de sourire, de hocher la tête et de presser Chip en direction de Roland. Il n'avait absolument aucune idée de l'endroit où ils allaient, ni comment ils allaient se sortir de ce merdier. La seule chose dont il était certain, c'est que Calvin Tower n'était pas là. Ce qui n'était pas plus mal. Tower n'était peut-être pas directement responsable de cette cavale infernale, mais en tout cas, tout tournait bien autour de ce bon vieux Cal. Eddie n'avait aucun doute à ce sujet. Si seulement ce bon vieux Cal avait... Une aiguille bouillante vint subitement lui perforer le bras, et Eddie poussa un cri de surprise et de douleur mêlée. Une seconde plus tard, une autre le frappa au mollet. Le bas de sa jambe droite fut pris dans une explosion de douleur affreuse, et il poussa un second cri. « Eddie !» fit Roland en hasardant un regard en arrière.
« Est-ce que tu... Ouais, ça va. Avance, avance !»
Devant eux se trouvait à présent un mur de contreplaqué percé de trois portes. Elles portaient respectivement les inscriptions « Hameçon »,« Mouette » et « Réservé au personnel ».«
Réservé au personnel !» cria Eddie.
Il baissa les yeux et vit un trou cerclé de rouge dans son jean, à une dizaine de centimètres en dessous de son genou. La balle n'avait pas explosé le genou même, ce qui était une bonne nouvelle. Mais, oh maman, ça faisait quand même un putain de mal de chien. Au-dessus de lui, un globe lumineux vola en éclats. Du verre lui tomba en pluie sur la tête et les épaules.
« Je suis assuré, Mais Dieu sait si ça va couvrir un truc comme ça, fit Chip toujours de sa voix la plus calme. Il essuya une nouvelle coulée de sang sur son visage, puis le fit de nouveau gicler par terre, où il alla dessiner une tache de Rorschach. Des balles sifflèrent autour d'eux. Le regard d'Eddie portait juste au-dessus du col de Chip. Quelque part derrière eux, Jake Andolini, cette bonne vieille triple mochetée, braillait en italien. Eddie n'avait pas franchement l'impression qu'il suggérait de battre en retraite. Roland et le client à chemise en flanelle passèrent la porte réservée au personnel. Eddie les suivit, gonflé à l'adrénaline et traînant toujours Chip derrière lui. Il s'agissait d'une arrière-boutique de bonne taille. Eddie sentait les odeurs mêlées de différentes céréales, un relent mentholé et surtout le café. À présent, Monsieur Chemise en flanelle avait pris la tête. Roland le suivit rapidement le long de l'allée centrale de la réserve, entre les palettes surchargées de boîtes de conserve. Eddie continua d'avancer hardiment en boitant, tractant toujours l'épicier derrière lui. Ce vieux Chip avait perdu beaucoup de sang, et Eddie s'attendait à le voir s'évanouir à tout moment. Mais Chip paraissait, eh bien, en grande forme. Il demandait à Eddie ce qui était arrivé à Ruth Bemer et à sa sœur. S'il voulait parler des deux femmes qui se trouvaient dans la boutique, ce qu'Eddie avait toutes les raisons de penser. Le jeune homme espérait que Chip ne recouvrerait pas subitement la mémoire. Au fond se dessina une autre porte. Monsieur Chemise en flanelle l'ouvrit et s'apprêta à la franchir. Roland le retint par la chemise et entreprit de passer lui-même en se baissant. Eddie cala Chip près de Monsieur Chemise en flanelle et se plaça en face d'eux. Derrière eux, les balles venaient se planter dans la porte réservée au personnel, y creusant des yeux de lumière vive. « Eddie !» grogna Roland. « À moi !» Eddie sortit en boitant. Il se retrouva sur une aire de chargement et au-delà, aperçut un arpent de sol morne et retourné. Sur la droite, des bidons d'ordures étaient entassés au hasard et il y avait deux conteneurs à déchets sur la gauche. Mais il ne semblait pas à Eddie Dean qu'on avait pris grand soin de mettre les ordures à leur place. Il vit aussi des tas de canettes de bière qui lui évoquèrent l'image de tas de fumier archéologique. Rien de tel qu'un moment de détente à l'arrière, après une rude journée au magasin, pensa Eddie. Roland pointait son arme en direction d'une nouvelle pompe à essence, plus ancienne et plus rouillée que les deux autres à l'avant. Diesel, dit Roland, est-ce que ça signifie carburant? C'est bien ça, n'est-ce pas?
Ouais, fit Eddie. Chip, la pompe diesel, elle marche?
Bien sûr, bien sûr, répondit-il d'un ton absent. « Il y a plein de gars qui font le plein par là. »«
Je sais la faire marcher, monsieur, »
proposa Monsieur Chemise en flanelle. « Vous feriez bien de me laisser faire. Elle est capricieuse. Vous pouvez me couvrir, vous et votre copain ?»«
Oui, »
acquiesça Roland. « Versez-le là-dedans, » dit-il en indiquant la réserve avec le pouce.
« Eh non !»
lança Chip alarmé. Combien de temps prit le tout? Eddie n'aurait su le dire. Tout ce dont il avait conscience, c'est de cette clarté qu'il n'avait connue qu'une fois, auparavant, à bord de Blaine le Mono. Elle envahissait tout de son éclat, même la douleur lancinante dans son mollet, là où son tibia avait peut-être été ébréché par la balle. Il avait conscience de la puanteur qui les entourait. Cette odeur de viande pourrie et de moisissure, un relent de levure et de laisser-aller, et du parfum divin des pins dans les bois, juste au-delà du périmètre de cette petite épicerie crasseuse de bord de route. Il entendait le vrombissement d'un moteur d'avion, dans un coin reculé du ciel. Il savait qu'il aimait M. Chemise en flanelle, parce que M. Chemise en flanelle était ici, avec eux, relié à Roland et à Eddie, par le lien le plus fort qui fut pendant ces quelques minutes. Mais le temps? Non, il n'avait aucune notion réelle du temps. Toute l'opération ne dut pourtant pas prendre beaucoup plus de 90 secondes. Depuis le moment où Roland avait sonné la retraite. Sinon, il se serait sans doute retrouvé débordé, avec ou sans l'accident de camion. Roland pointa le bras vers la gauche, puis se tourna vers la droite. Lui et Eddie se tenaient dos à dos sur l'aire de chargement, à une distance d'environ 2 mètres. L'arme à hauteur de visage, comme des hommes sur le point de se battre en duel. Aussi leste qu'un criquet, Monsieur Chemise en flanelle sauta du remblai et saisit la manivelle chromée sur le côté de la vieille pompe à essence. Il commença à la faire tourner rapidement. Dans leur petite fenêtre, les chiffres se mirent à défiler en arrière. Mais au lieu de revenir tous à 0, ils s'immobilisèrent sur le nombre 0019. Monsieur Chemise en flanelle tenta de faire repartir la manivelle. Lorsqu'elle refusa de tourner, il haussa les épaules et secoua le tuyau pour l'extirper de son râtelier rouillé.
« John, non !»
s'écria Chip. Il se tenait toujours dans la porte de la réserve, les mains levées, dont l'une était intacte et l'autre maculée du sang qui avait coulé jusqu'à son coude.
« Dégage de là, Chip, ou tu vas te... »
Deux hommes se ruèrent par le côté de l'épicerie générale d'East Stoneham. Ils portaient tous deux un jean et une chemise en flanelle. Mais à la différence de celle de Chip, les leurs avaient l'air flambant neuves, avec encore le pli sur la manche. Achetés pour une occasion très spéciale, pensa Eddie. Et il reconnut parfaitement l'un des deux guignols. Il l'avait vu pour la dernière fois dans le restaurant spirituel de Manhattan, la librairie de Calvin Tower. Eddie l'avait tué, celui-là aussi. 10 ans dans l'avenir, si incroyable que ça puisse paraître. À la tour penchée, la boîte de Balazar, et avec ce même pistolet qu'il tenait en ce moment même. Une bribe d'une vieille chanson de Bob Dylan lui revint subitement en mémoire. Ça parlait du prix à payer pour éviter d'avoir à tout revivre une deuxième fois.
Hé, gros Blair !
S'écria Eddie. Comme il était visiblement condamné à le faire dès qu'il croisait cette espèce de grosse ordure.
« Comment ça va, mon pote ?»
À vrai dire, George Biondi n'avait pas l'air en grande forme. Sa propre mère l'aurait trouvé à peine présentable, même dans un bon jour, ce tarin monstrueux. Et il avait les traits bouffis et décolorés par des hématomes qui commençait à peine à s'estomper. Le pire d'entre eux se situait pile entre les deux yeux.
« C'est moi qui ai fait ça, » se rappela Eddie, « dans l'arrière-boutique de la librairie de Tower. »
C'était vrai, mais ça lui semblait aussi daté d'un millier d'années. « Toi !» lança George Biondi. apparemment trop sonné pour même lever son arme. « Toi, ici !»«
Moi, ici !» acquiesça Eddie. « Quant à toi, t'aurais mieux fait de rester à New York !»
Sur ces bonnes paroles, il fit sauter la tête de George Biondi, celle de son copain aussi. Chemise en flanelle appuya sur la gâchette de la pompe et du carburant sombre gicla du tuyau. Il éclaboussa Chip, qui fit un bond en arrière d'un air indigné et pénétra à reculons sur l'aire de chargement.
« Ça brûle !» cria-t-il. « Vain Dieu que ça brûle ! Arrête ça, John !»
Mais John n'arrêta pas. Trois autres hommes déboulèrent du côté de Roland, aperçurent le visage terrible et serein du pistolero et entreprirent de faire machine arrière. Ils tombèrent raides morts avant d'avoir pu poser leurs nouvelles chaussures de marche sur le bitume. Eddie repensa à la demi-douzaine de voitures et au gros Winnebago garé de l'autre côté de la route, et eut le temps de se demander combien d'hommes Balazar avait bien pu envoyer pour cette petite expédition. Pas seulement sa garde rapprochée à l'évidence. Comment avait-il payé les renforts?
Il n'a pas eu besoin de le faire, se dit le jeune homme. Quelqu'un l'a blindé de thunes et lui a dit d'aller leur régler leur compte. Autant d'hommes de main qu'il pourrait en trouver en dehors de la ville. Et il avait même réussi à les convaincre que les types qu'ils allaient liquider méritaient bien ce grand déballage.
De l'intérieur de la boutique monta un martèlement sourd et percutant. De la suie jaillit de la cheminée et se fit absorber par le nuage plus sombre et huileux issu du camion éventré. Eddie imagina que quelqu'un avait dû lancer une grenade. La porte de la réserve sauta hors de ses gonds dans un nuage de fumée, fit un bond de plusieurs mètres dans l'allée centrale et tomba à plat au milieu de la pièce. Bientôt, le type qui avait balancé la grenade en lancerait une autre, et avec la mare d'essence qui recouvrait à présent le sol de la réserve.
« Fais en sorte de le ralentir si tu peux, » dit Roland. « Le sol n'est pas encore assez arrosé. »«
Ralentir Andolini ?» demanda Eddie. « Et je suis censé faire comment ?»«
Avec ta grande bouche !» cria Roland.
Et Eddie aperçut une vision merveilleuse qui lui regonfla le cœur de courage. Roland souriait de toutes ses dents. Il riait presque. En même temps, il regardait Chemise en flanelle en lui faisant un grand signe de la main. Un moulinet qui signifiait « Continue à pomper !»«
Jake !»
s'écria Eddie. Il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Andolini. Aussi se contenta-t-il de brailler aussi fort qu'il le put. Sachant qu'il avait grandi en traînant dans les rues les moins fréquentables de Brooklyn, il parvint à un résultat plutôt convaincant. Il y eut un silence. La fusillade ralentit, puis s'arrêta complètement.
« Hey !»
répondit Jake Andolini d'un air surpris, mais visiblement de bonne humeur. Mais Eddie avait du mal à croire qu'il était vraiment surpris, et il n'avait aucun doute sur ce que voulait Jack, sa vengeance. Il avait été blessé dans l'arrière-boutique de la librairie de Tower, mais ce n'était pas le pire. Il avait aussi été humilié.
Hé, grande gueule, c'est toi le type qui voulait faire voler ma cervelle jusqu'à Hoboken et qui m'a collé une arme sous le menton? Vieux, j'ai une sacrée marque.
Eddie le voyait faire son petit discours contrit tout en déployant ses hommes. Combien en restait-il? 8, 10 peut-être. Ils en avaient déjà éliminé un paquet pourtant. Et où était le reste? 1 ou 2 à gauche de la boutique,
quelques-uns sur la droite. Le reste avec Monsieur Joujou la grenade. Et quand Jake serait prêt, ces types passeraient à l'attaque, tout droit dans la mare de Diesel. En tout cas, c'était ce qu'Eddie espérait.
« Je l'ai avec moi aujourd'hui, ce pistolet !»
lança-t-il à Jake.
« Cette fois, je pensais te l'enfoncer dans le cul. Qu'est-ce que t'en dis ?»
Jake éclata de rire. Un rire souple, détendu. De la comédie, mais de la bonne. Jake était sur la corde raide. Rythme cardiaque à au moins 130. Tension à 17. On y était. Il ne s'agissait pas seulement de se venger d'un petit voyou qui avait voulu lui faire de l'ombre, mais du plus gros coup de la carrière de ce gros lard puant, son Super Bowl. Balazar avait beau donner les ordres. Sur le terrain régnait Jake Andolini. C'était lui l'opérationnel. Et cette fois, le boulot ne consistait pas seulement à tabasser un tenancier de bar abruti qui ne voulait pas payer sa petite contribution, ou à convaincre un bijoutier youpin de Lenox Avenue qu'il avait besoin de protection. Cette fois, c'était la guerre. Jake était malin, du moins comparé à la plupart des truands qu'Eddie avait croisés au cours de ses années de défonce et de cavale avec son frère Henry. Mais Jake avait aussi cette forme de stupidité fondamentale qui n'avait rien à voir avec son QI. Ce voyou qui le titillait en ce moment même lui avait déjà mis une raclée une fois, et sans trop d'efforts. Mais Jake Andolini s'était débrouillé pour l'oublier. Le carburant huileux se répandait silencieusement sur le sol, formant des vaguelettes le long des vieilles planches tordues de la remise. John, alias chemise en flanelle Yankee, lança à Roland un regard interrogateur. Le pistolero répondit d'abord en secouant la tête, puis en reprenant son moulinet de la main. « Encore !»«
Où est le type de la librairie, grande gueule ?»
Toujours aussi aimable, mais plus proche. Il avait traversé la route, alors. Eddie évalua qu'il devait se trouver juste devant la boutique. Dommage que l'essence ne soit pas plus répandue.
« Oui, Tower ?» « Livre-le-nous et on vous laisse tranquille, toi et ton copain, jusqu'à la prochaine fois. »«
Ben voyons, » pensa Eddie. Et il se remémora une expression employée un jour par Susanna, avec un grognement à la Detta Walker, pour exprimer son incrédulité la plus totale.
« C'est sûr que tu m'auras pas sur le dos et je te taperai pas sur les nerfs. »
Cette embuscade avait été conçue tout spécialement pour des pistoleros en visite. Eddie en était presque certain. Les méchants savaient peut-être où se trouvait Tower, ou peut-être pas. Ils n'avaient aucune confiance dans ce qui sortait de la bouche de Jake Andolini. Mais en tout cas, quelqu'un savait très précisément où, quand, et comment la porte dérobée allait déposer Eddie et Roland, et il avait vendu la mèche à Balazar.
Vous voulez le type qui a mis votre gars dans l'embarras, monsieur Balazar?
Le gamin qui a mis la pâtée à Jake Andolini et à George Biondi avant que Tower ait pu vous balancer les infos que vous vouliez? Très bien. Voilà où il va se pointer, lui et un autre. Ah, et au fait, voilà un bon paquet de cash, histoire de vous payer une armée de mercenaires en pompe à talonnettes. Ça suffira peut-être pas. C'est un dur, le gamin. Et son copain est pire encore. mais vous aurez peut-être de la chance. Même dans le cas contraire, même si le dénommé Rolant en réchappe en laissant un tas de cadavres derrière lui. L'essentiel, c'est de choper le gamin. Et puis, on pourra toujours trouver des fines gâchettes, pas vrai? Le monde en est rempli. Les mondes. Et Jack et Callahan, est-ce qu'eux aussi avaient eu droit au comité d'accueil, quelque 32 ans après ce camp? Le petit poème sur la palissade, entourant le terrain vague, suggérait que, s'ils avaient suivi sa femme, c'était le cas. Susanna Millot, ma chérie divisée, disait le poème, a garé son semi-remorque au cochon du Sud, l'année 99. Et si un comité d'accueil les attendait bien, se pouvait-il qu'ils soient encore en vie? Eddie se raccrocha à une seule idée. Si un membre du quatet mourait, Susanna, Jake, Callahan ou même Oté, lui et Rolant le sauraient. Et s'ils se racontaient des histoires, s'ils cédaient à quelque illusion romantique, Alléluia.